Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Cinquième épisode.
Fantine, malade, est emmenée au commissariat par l'inspecteur Javert. Monsieur Madeleine la fait libérer et la transporte à l'infirmerie. Javert lui avoue l'avoir dénoncée comme ancien forçat, à l'heure où un voleur nommé Champmathieu va être jugé à sa place. Monsieur Madeleine se porte à son secours en avouant sa véritable identité devant la justice. Il quitte toutefois le tribunal sans être inquiété et retourne au chevet de Fantine.
Le jour commençait à poindre. Fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie. Au matin, elle s'endormit. La sœur Simplice profita de ce sommeil pour aller préparer une nouvelle potion de quinquina. Tout à coup, elle tourna la tête.
C'est vous, monsieur le maire.
Sœur Simplice, comment va cette pauvre femme?
Nous avons été bien inquiets. Mais maintenant qu'elle va vous voir et qu'elle ne verra pas son enfant, que lui dirons-nous?
Dieu nous inspirera.
On ne pourrait cependant pas mentir. Mon Dieu, monsieur, que vous est-il donc arrivé? Vos cheveux sont tout blancs.
Blancs? Il faut que je la voie. Je suis peut-être un peu pressé.
En ce cas, elle repose, mais monsieur le maire peut entrer.
Il entra dans la chambre. Elle dormait. Son souffle sortait de sa poitrine avec ce bruit tragique qui est propre à ses maladies. Elle ouvrit les yeux.
Je savais que vous étiez là. Je vous ai suivi des yeux toute la nuit. Vous étiez dans une gloire et vous aviez autour de vous toutes sortes de figures célestes. Mais dites-moi donc, où est Cosette?
Mon enfant, calmez-vous. Votre enfant est là.
Monsieur le médecin, apportez-la moi.
Pas encore. Vous avez un reste de fièvre. Il faut d'abord vous guérir.
Mais je suis guérie.
Vous voyez comme vous vous emportez.
Je vous demande pardon. Je comprends, vous craignez l'émotion. J'attendrai tant que vous voudrez. Oh, que je voudrais donc la voir. Monsieur le maire, l'avez-vous trouvée jolie?
Cosette est belle. Elle se porte bien. Vous la verrez bientôt. Mais apaisez-vous.
Il y avait un enfant qui jouait dans la cour. C'est là un de ces hasards qui semble faire partie de la mystérieuse mise en scène des événements lugubres.
Oh, c'est ma Cosette, je reconnais sa voix. Bonne sœur Simplice, vous ne savez pas comme je suis bête. Voilà que je pense à la première communion de ma fille.
Fantine ne parlait plus. Elle s'était soulevée à demi sur son séant, visage blême.
Mon Dieu, qu'avez-vous, Fantine?
Il se retourna et vit Javert. À l'instant où son regard rencontra le regard de Javert, Javert, sans bouger, devint épouvantable. La certitude de tenir enfin Jean Valjean fit apparaître sur sa physionomie tout ce qu'il avait dans son âme. La difformité du triomphe s'épanouit sur ce front étroit. Mais Javert, effroyable, n'avait rien d'ignoble. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique conserve on ne sait quel rayonnement vénérable. Sans qu'il s'en doutât, Javert était à plaindre, comme tout ignorant qui triomphe. Rien n'était poignant comme cette figure, où se montrait tout le mauvais du bon.
Monsieur Madeleine, sauvez-moi.
Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vient.
Allons vite. À ça viendras-tu?
Monsieur le maire.
Il n'y a plus de monsieur le maire ici.
Javert.
Appelez-moi monsieur l'inspecteur.
Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier.
Tout haut. On me parle tout haut à moi.
C'est une prière que j'ai à vous faire. Accordez-moi 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme.
Tu veux rire? Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Voilà qui est bon.
n'attendons pas ici. Je veux mon enfant, monsieur le maire.
Te tairas-tu, drôlesse? Je te dis qu'il n'y a point de monsieur le maire. Il y a un forçat nommé Jean Valjean.
Fantine se dressa en sursaut. Elle regarda Jean Valjean, elle regarda Javert, elle regarda la religieuse. Elle ouvrit la bouche, un râle sortit du fond de sa gorge, puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Elle était morte.
Vous avez tué cette femme.
Finirons-nous? Je ne suis pas ici pour entendre des raisons. Marchons, tout de suite.
Je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment.
Ce qui est certain, c'est que Javert tremblait. Jean Valjean se mit à contempler Fantine. Il n'y avait plus rien sur son visage qu'une inexprimable pitié. Il prit la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller, comme une mère eût fait pour son enfant. Il lui rentra ses cheveux sous son bonnet et lui ferma les yeux. La face de Fantine, en cet instant, semblait étrangement éclairée. La mort, c'est l'entrée dans la grande lueur. La main de Fantine pendait hors du lit. Jean Valjean la souleva doucement et la baisa. Puis il se tourna vers Javert.
Maintenant, je suis à vous.
Javert le déposa à la prison de la ville. L'arrestation de M. Madeleine produisit à Montreuil-sur-Mer une commotion extraordinaire. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot « c'était un galérien », tout le monde à peu près l'abandonna. Trois ou quatre personnes restèrent fidèles à cette mémoire. La vieille portière fut du nombre. Vers l'heure où M. Madeleine avait coutume de rentrer, machinalement, elle accrocha la clé au clou. En ce moment, la vitre de la loge s'ouvrit, une main passa par l'ouverture, saisit la clé et le bougeoir.
Mon Dieu, je vous croyais...
En prison, j'y étais. J'ai brisé un barreau de fenêtre et me voici. Je monte à ma chambre.
Une heure après, un homme marchant à travers les arbres et les brumes s'éloignait rapidement dans la direction de Paris. Cet homme était Jean Valjean. Revenons en arrière, c'est un des droits du narrateur, et replaçons-nous en l'année 1815. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie, et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo n'a pu commencer qu'à 11 heures. Pourquoi ? Parce que la terre était mouillée. Quelle quantité de faute y a-t-il de la part de Napoléon dans la perte de cette bataille ? Le naufrage est-il imputable au pilote ? Dans cette classe de grands hommes matériels qu'on peut appeler les géants de l'action, y a-t-il un âge pour la myopie du génie ? Il était temps que cet homme vaste tombât. Dans la nuit, on dépouilla les morts. Vers minuit, un homme rampait du côté du chemin creux d'Ohain. On entendait vaguement au loin aller et venir les patrouilles du campement anglais. Le rôdeur furetait cette immense tombe. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas sortait une main ouverte éclairée par la lune. Cette main avait au doigt un anneau d'or. L'homme se courba, et quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. Il sentit que par derrière, on le tenait. C'était la main ouverte qui avait saisi le pan de sa capote. Un honnête homme eut peur. Celui-ci se mit à rire.
Ah, tiens, ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. Est-il vivant, ce mort ?
Il se pencha de nouveau, saisit la main, empoigna les bras, dégagea la tête, tira le corps. C'était un officier.
Merci. Qui a gagné la bataille? Les Anglais. Voici qu'on vient. Vous m'avez sauvé la vie. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous?
Thénardier.
Je n'oublierai pas ce nom. Et vous, retenez le mien. Je me nomme Pontmercy.
Mmh. Jean Valjean avait été repris. Il changea de chiffre au bagne. Il s'appela 9430. Vers la fin d'octobre 1823, les habitants de Toulon virent rentrer dans le port, à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau L'Orion. Un matin, la foule qui le contemplait fut témoin d'un accident. L'équipage était occupé à enverguer les voiles. Le gabier perdit l'équilibre. Tout à coup, on aperçut un homme qui grimpait dans le gréement avec l'agilité d'un chat-tigre. Cet homme était vêtu de rouge, c'était un forçat. En un clin d'œil, il fut sur la vergue. Parvenu à la pointe, il y attacha un bout de la corde qu'il avait apportée. Il se mit à descendre avec les mains et alors, ce fut une inexprimable angoisse. Au lieu d'un homme suspendu sur le gouffre, on en vit deux. Cependant, le forçat était parvenu à s'affaler près du matelot. Il l'avait amarré solidement avec la corde. Enfin, on le vit remonter sur la vergue et y haler le matelot. Il le porta dans la hune, où il le laissa dans les mains de ses camarades. À cet instant, la foule applaudit. Lui, cependant, s'était mis en devoir de redescendre immédiatement pour rejoindre sa corvée. Tout à coup, la foule poussa un grand cri, le forçat venait de tomber à la mer. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. 17 novembre 1823. Hier, un forçat de corvée de l'Orion est tombé à la mer et s'est noyé. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Montfermeil n'était qu'un village dans les bois. Seulement, l'eau y était rare à cause de l'élévation du plateau. Il fallait la chercher assez loin. C'était là la terreur de ce pauvre être que le lecteur n'a peut-être pas oublié, de la petite Cosette. Dans la soirée de Noël 1823, à l'auberge des Thénardier, Cosette était à sa place ordinaire, assise sur la traverse de la table de la cuisine près de la cheminée. Elle était en haillons, ses pieds nus dans des sabots. On entendait rire et jaser dans la pièce voisine. Deux fraîches voix d'enfants, c'était Éponine et Azelma. Le cri d'un très jeune enfant perçait au milieu du bruit. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents. La mère l'avait nourri, mais ne l'aimait pas.
Ton fils piaille !
Il m'ennuie ! Tiens, il n'y a plus d'eau. Et où est donc cet autre ? Vas-tu venir ? Va donc chercher de l'eau !
Une file de boutiques en plein vent qui partait de l'église se développait jusqu'à l'auberge Thénardier. La dernière de ces baraques était toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang, le marchand avait placé une immense poupée qui était vêtue d'une robe de crêpe rose avec des épis d'or sur la tête. Éponine et Azelma avaient passé des heures à la contempler. Et Cosette, furtivement, il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où elle sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fût, elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers la dame, comme elle l'appelait. Elle s'arrêta pétrifiée. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision.
Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là.
C'était le bonheur qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide.
Comment, Péronnelle, tu n'es pas parti ? Attends, fais à toi !
La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Elle s'y enfonça. Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Elle arriva à la source. Elle chercha de la main gauche un jeune chêne incliné. Elle sentit le froid à ses mains qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. Elle marchait, penchée comme une vieille, Le poids du seau roidissait ses bras maigres.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main venait de saisir Lance. C'était un homme qu'elle n'avait pas entendu venir. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur.
Mon enfant, c'est bien lourd ce que vous portez là.
Oui, monsieur.
Quel âge as-tu ?
8 ans, monsieur.
Tu n'as donc pas de mère ?
Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas.
Comment t'appelles-tu ?
Cosette.
Où demeures-tu ?
À Montfermeil, si vous connaissez.
C'est là que nous allons ?
Oui, monsieur.
Qui est-ce donc qui t'a envoyé chercher de l'eau dans le bois ?
C'est Madame Thénardier.
Qu'est-ce qu'elle fait à Madame Thénardier ?
C'est ma bourgeoise. Elle tient l'auberge.
L'auberge ? Eh bien, je vais y aller loger cette nuit. Conduis-moi.
Ils atteignirent le village.
C'est dans la foire, ici ?
Non, monsieur. C'est Noël. Nous voilà tout près de la maison. Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ?
Pourquoi ?
C'est que si Madame Thénardier voit qu'on me l'a porté, elle me battra.
Cosette ne put s'empêcher de jeter un regard de côté à la grande poupée chez le bimbelotier. Puis elle frappa.
Ah, c'est toi, petite gueuse. Dieu merci, tu as mis le temps.
Madame, voilà un monsieur qui vient loger.
Entrez, bonhomme. Je suis bien fâchée, mais c'est que je n'ai plus de place.
Mettez-moi où vous voudrez. Au grenier, à l'écurie. Je paierai comme si j'avais une chambre.
40 sous.
40 sous, soit.
À la bonne heure. À propos, voulez-vous souper ? Ah, je t'y prends, c'est comme ça que tu travailles ? Je vais te faire travailler à coups de martinet, moi.
Madame, laissez-la jouer.
Il faut qu'elle travaille, puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire.
Qu'est-ce qu'elle fait, donc ?
Des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas.
Et combien peut valoir une paire de bas quand elle sera faite ?
Au moins 30 sous.
La donneriez-vous pour 5 francs ?
Ah oui, monsieur. Si c'est votre fantaisie, nous ne savons rien refuser aux voyageurs.
J'achète cette paire de bas et je la paye. Maintenant, ton travail est à moi. Joue, mon enfant.
Madame, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux jouer ?
Joue. Qu'est-ce que ça peut être que cet homme jaune ?
J'ai vu des millionnaires qui avaient des redingotes comme cela.
Monsieur, je veux bien que l'enfant joue. Je ne m'y oppose pas. Mais c'est beau pour une fois, parce que vous êtes généreux. Monsieur, voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que cela travaille.
Elle n'est donc pas à vous, cet enfant ?
Non, monsieur. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie par charité. Cosette !
Qu'est-ce donc ?
Vous ne voyez pas ? Cette gueuse s'est permis de toucher à la poupée des enfants. Te tairas-tu ?
L'homme alla droit à la porte de la rue et sortit. La porte se rouvrit. L'homme portait dans ses deux mains la poupée fabuleuse.
Tiens, c'est pour toi.
Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises. À plat ventre devant.
Le lendemain matin, Le mari Thénardier, une plume à la main, composait la carte du voyageur à la redingote jaune. La femme debout, à demi courbée sur lui, le suivait des yeux.
Tu remettras la carte à l'homme.
Il était à peine hors de la salle que le voyageur y entra.
Levez si tôt ? Est-ce que monsieur nous quitte déjà ?
Oui, madame, je m'en vais.
N'avez-vous donc pas d'affaires à Montfermeil ?
Non, je passe par ici, voilà tout. Faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil ?
Oh, les temps sont bien durs. Et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits. Nous avons tant de charges. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête.
Quelle petite ?
Eh bien, la petite, vous savez, Cosette. L'alouette, comme on dit dans le pays.
Et si on vous en débarrassait ?
Ah, mon bon monsieur. Prenez-la, truffez-la, buvez-la, et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge et de tous les saints du paradis.
C'est dit. Allez chercher la petite.
En ce moment, le Thénardier s'avança au milieu de la salle.
J'ai besoin de causer un peu avec monsieur. Laisse-nous, ma femme. Monsieur, tenez, je vais vous dire, c'est que je l'adore, moi, cet enfant. On ne donne point son enfant comme ça à un passant. Il faudrait un petit bout de passeport, quoi.
Monsieur Thénardier, on n'a pas de passeport pour venir à Saint-Cloud de Paris. Si j'emmène Cosette, je l'emmènerai, voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom, vous ne saurez pas où elle sera, et mon intention est qu'elle ne vous revoie de sa vie. Ça vous convient-il, oui ou non ?
Il me faut 1500 francs.
L'étranger prit dans sa poche un vieux portefeuille en cuir noir et en tira 3 billets de banque qu'il posa sur la table.
Faites venir Cosette.
Le jour paraissait lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu, donnant la main à une petite fille. Cosette s'en allait. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle la gargote Thénardier. Elle ouvrait ses grands yeux et considérait le ciel. Elle sentait quelque chose comme si elle était près du bon Dieu.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 5e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Corinne Martin, Cosette Enfant, Lisbeth Arasie-Mornay, Sœur Simplice, Dominique Massa, l'officier Pontmercy. Et les voix de Jeanne Sellard, Jean-Charles Delhomme, Maëlys Ricordeau et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Interprétée par Françoise Guéry, Christophe Guillot, Laurent Lefebvre, Philippe Nadal et Françoise de Maubus. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.